Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour professeur Jean-Daniel Chiche.
Bonjour.
Chef adjoint du service de réanimation à l'hôpital Cochin à Paris. La réanimation, c'est le bout de la chaîne dans un hôpital. L'accueil des patients les plus graves, des questions de vie ou de mort. Quelle est la situation chez vous ce matin?
Tous les lits de réanimation sont pleins. On s'est préparé à cette situation, mais il faut bien de reconnaître qu'aujourd'hui, la situation dépasse nos prévisions, puisque les scénarios qu'on avait étaient autour de 1000 patients ventilés sur la région parisienne, et on ne va pas tarder à s'approcher de scénarios qu'on n'avait pas anticipés autour de 2000 patients. Donc, aujourd'hui, on n'est pas très très loin d'être dépassé déjà.
C'est-à-dire que vous n'êtes plus capable, là aujourd'hui, d'accueillir de nouvelles personnes à soigner en réanimation?
C'est-à-dire qu'il faut... On a été obligé d'adapter la façon dont on travaille, et notamment, on a été obligé d'ouvrir des lits dans des secteurs qui n'étaient pas initialement prévus pour, ce qui a évidemment... qui s'associe à des difficultés logistiques, non seulement en termes de matériel, mais également en termes de personnel, et notamment de personnel paramédical, et qu'aujourd'hui, on travaille en faisant sortir dès que possible des structures les plus lourdes vers des structures de réanimation un peu moins lourdes, les patients qui n'ont plus qu'une seule défaillance d'organes pour pouvoir en accueillir d'autres, tout en réfléchissant de façon assez inventive pour voir comment on va pouvoir ouvrir de nouveaux lits.
C'est-à-dire que vous avez augmenté vos capacités ces derniers jours et que vous réfléchissez aux moyens de pouvoir le faire encore. Que vous manque-t-il désormais pour le faire? Des hommes, du matériel, des médicaments?
Alors il manque du matériel, évidemment. Il manque des respirateurs de réanimation. Aujourd'hui, la tension est majeure parce qu'un certain nombre de fabricants ont augmenté beaucoup leur production. Mais ces respirateurs ont été envoyés en Asie, qui avait quelques mois d'avance sur l'épidémie. Et aujourd'hui, on a énormément de difficultés à identifier des respirateurs disponibles sur le marché. On a besoin de matériel de perfusion et on a besoin évidemment de personnel, et notamment de personnel paramédical. Il ne suffit pas pour ouvrir un lit de réanimation, il suffit pas d'avoir une chambre avec un lit dedans et un peu de matériel autour. Vous avez évidemment besoin d'avoir du personnel formé et compétent pour prendre en charge ces patients. Et ça, c'est aujourd'hui un enjeu majeur.
Est-ce que vous avez, comme dans d'autres établissements, formé en urgence des infirmières pour qu'elles occupent des postes de médecins en réanimation?
Alors, pas pour qu'elles occupent des postes de médecins. Aujourd'hui, sur le personnel médical, la tension existe, mais elle est moins vive, dans le sens où, comme vous l'avez déjà exposé, toutes les... activités chirurgicales non programmées, par exemple, programmées, ont été déprogrammées. On a redistribué les moyens de sorte que nos collègues anesthésistes réanimateurs nous donnent un coup de main. Et c'est pas tellement en termes de personnel médical qu'on a un souci. En revanche, on est obligé effectivement de former des infirmières qui sont des infirmières de salle, comme on dit dans notre jargon, qui sont pas habituées à prendre des patients en soins critiques et en réanimation. Pour les former en urgence à prendre en charge ces patients sous ventilation artificielle pour l'essentiel d'entre eux, parce que c'est effectivement la défaillance numéro un que présentent ces patients, et c'est évidemment une défaillance qui nécessite une assistance respiratoire qui est très technique et pour laquelle il y a besoin d'avoir des compétences spécifiques.
Dans votre personnel, il y a des soignants malades?
Évidemment, on a malheureusement à déplorer des soignants malades, essentiellement dans le personnel médical en réanimation, parce que ce sont les médecins qui sont amenés à être en contact le plus proche avec les voies aériennes des patients. On a deux de nos médecins qui sont actuellement malades. Oui.
L'appel à volontaires qui a été lancé il y a quelques jours, est-ce qu'il a porté ses fruits? Est-ce que vous avez des personnes qui vous aident aujourd'hui, qui ont une formation médicale et qui peuvent donner un coup de main à l'hôpital?
Alors, clairement, pour ce qui est de la réanimation, on avait anticipé cet appel à volontaires, c'est-à-dire que très en amont, avant même le cri d'alarme de Martin Hirsch sur les antennes, on avait contacté tous les des gens qu'on a formés, dont on savait qu'ils étaient compétents en réanimation pour pouvoir réorganiser notre prise en charge. Donc ça, c'est une première chose qui avait été faite. Maintenant, la réserve sanitaire, je crois que c'est quelque chose qui marche pas mal, où plein de gens se sont manifestés pour venir aider. Ceci dit, sur des secteurs comme la réanimation, c'est très compliqué parce que ça nécessite vraiment une compétence très spécifique, une compétence technique, et c'est encore plus vrai dans une situation tendue où aujourd'hui, encore une fois, dans notre service, par exemple, 24 patients sont les 24 sous respiration artificielle, ce qui est une situation assez exceptionnelle.
Bien sûr.
Donc ce ne sont pas les services de réanimation qui ont bénéficié à premier titre, mais évidemment, ça nous permet de délocaliser d'autres personnels qui sont parfois d'anciennes infirmières de réanimation qui sont aujourd'hui dans des services de médecine et qu'on peut réaffecter à nos services de réanimation temporairement.
Quel est le moral de vos équipes ce matin, professeur ?
Écoutez, je vais vous dire qu'elles sont combatives, résilientes. Clairement, elles sont inquiètes aussi parce que on mesure bien qu'on est encore au creux de la vague et que ça va vraisemblablement continuer à monter, que le nombre de patients va probablement continuer à s'amplifier jusqu'au 15 avril. Et évidemment, leur inquiétude numéro un, c'est de pouvoir faire face. Et comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'on va pouvoir proposer un lit en réanimation et une prise en charge aux patients qui en ont besoin ? Mais elles sont très clairement combatives. J'ai coutume de dire qu'on ne lâche rien en réanimation et nos équipes ne lâchent rien et ne lâcheront rien. Vous pouvez compter sur nous.
Oui, mais vous redoutez d'être submergé, de ne plus pouvoir faire face à très brève échéance.
Nous redoutons d'être dans une situation où effectivement, malgré tous les efforts qui sont faits pour essayer d'augmenter les capacités d'accueil, le nombre de lits, que l'épidémie continue à progresser, et notamment que le pourcentage de cas graves continue à augmenter, et qu'on se retrouve dans une situation où effectivement on est dépassé. C'est pour ça que on prend avec énormément de on pense que le confinement, la poursuite du confinement, c'est quelque chose de très sage et qu'on appelait de nos voeux de toute façon.
Bien sûr. Il faudra sans doute organiser d'autres transferts à travers la France pour soulager des hôpitaux saturés.
Alors c'est quelque chose qu'on peut envisager. Et en Ile-de-France, il faut reconnaître qu'on a la chance d'avoir un capacitaire qui est très au-delà de ce qu'on a dans d'autres régions de France. Et je pense qu'il y a malheureusement assez peu de régions sur lesquelles on va pouvoir se délester. Je vois que le Grand Ouest peut pour l'instant venir en appui au Grand Est qui était totalement dépassé, mais je crois qu'il va aussi falloir, quand tout ça sera passé, qu'on réfléchisse à nouveau la carte sanitaire de notre pays, qu'on réfléchisse surtout l'offre de soins en réanimation, où la France est à peine à la moyenne des services européens, avec 11,6 lits pour 100 000 habitants, lorsque nos collègues allemands bénéficient de 29 lits pour 100 000 habitants. Et on est obligé de se dire, quand on regarde les chiffres de mortalité aujourd'hui, qu'il y a peut-être un lien de cause à effet.
La question du choix des malades admissibles en réanimation, cette question se pose tous les jours, crise ou pas, nous l'avons déjà dit ici et la semaine dernière avec l'un de vos collègues de l'hôpital Avicenne. Mais là, au milieu de cette catastrophe, est-ce que vous redoutez d'avoir des pertes illégitimes des personnes que vous auriez pu sauver si vous aviez davantage de soignants, de lits ou de matériel?
Je voudrais d'abord insister à nouveau sur ce que vous venez de dire et ce qui avait été dit par mon collègue, c'est qu'effectivement le travail que nous faisons sur les admissions en réanimation et la réflexion du bien fondé de l'admission, c'est un travail qui a lieu quotidiennement dans les services de réanimation. Nous sommes là pour en quelque sorte créer des deuxièmes vies et des deuxièmes vies qui ont du sens, et il est évident que c'est une réflexion, le bénéfice potentiel pour les patients que nous admettons, c'est une réflexion que nous menons tous les jours de l'année. De ce point de vue-là, les équipes de réanimation sont habituées à avoir cette discussion. Est-ce qu'aujourd'hui nous craignons d'être dans une situation où nous sommes amenés à faire des choix? Je dirais que tout a été mis en œuvre pour qu'on soit pas dans cette situation-là. Et notamment, on essaye toujours d'avoir un coup d'avance en réanimation en prévoyant des structures d'aval qui vont monter en charge également des services de soins post-réanimation qui vont prendre des patients un peu plus graves qu'à l'accoutumée et qui vont jouer leur part de ce dispositif pour que effectivement on puisse concentrer dans les services de réanimation aujourd'hui les patients les plus graves et pour lesquels on a un espoir de récupération ad intégrum.
Jean-Daniel Chiche, professeur de réanimation à l'hôpital Cochin et président de la fondation One qui promeut la réanimation. On va en parler et on poursuit cet entretien après une courte pause.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen en direct de chez lui.
Et toujours en ligne avec le professeur Jean-Daniel Chiche, chef adjoint du service de réanimation à l'hôpital Cochin. Professeur, je voudrais que vous nous parliez des malades. Quel est le profil de ceux que vous accueillez dans votre service de Cochin ?
Les patients qu'on accueille aujourd'hui sont donc tous des patients Covid+, comme on dit dans notre jargon d'aujourd'hui, c'est-à-dire tous des patients infectés par le coronavirus. Et ils ont tous une défaillance respiratoire qui est au premier plan et qui nécessite aujourd'hui d'être mis sous ventilation artificielle. Cette défaillance est plus ou moins sévère et souvent on part pour, je dirais, 14 jours de ventilation artificielle à peu près, ce qui est un des enjeux majeurs de la gestion de cette crise, c'est de savoir si justement, parce que ces patients vont être ventilés longtemps, on va pouvoir continuer à les accueillir. Donc ce sont tous des patients en défaillance respiratoire, quelques patients présentent d'autres défaillances d'organes associés, notamment des défaillances rénales. Mais ce qui est au premier plan chez ces patients et qui est assez particulier, je dirais, c'est l'intensité de cette défaillance respiratoire.
Chacun a été frappé par le décès de cette adolescente de 16 ans, Julie, cette semaine à Necker. Vous avez vu arriver des jeunes malades à Cochin ?
Alors, pas 16 ans. On a vu arriver des patients, effectivement, jeunes, autour d'une quarantaine d'années. Alors, on se pose beaucoup la question de savoir si ces patients ont des comorbidités. Et on entend parfois dans les médias le fait que ces patients n'ont pas de comorbidités. Et là, je pense qu'il y a une précision qui est importante à apporter, c'est que la majeure partie de ces patients ont de l'hypertension artérielle, du diabète, de l'obésité, des choses qui sont peut-être pas complètement intégrées dans la société comme étant des comorbidités, mais qui montrent bien quelque part l'état de santé de la population aujourd'hui. Et on se rend compte au cours de cette épidémie coronavirus que ces comorbidités qui viennent, je dirais, de l'exposition à notre société du 21e siècle ont un poids dans notre capacité à nous défendre contre les infections et on peut imaginer que dans des pays comme les États-Unis où l'incidence de ces maladies est encore plus importante, la mortalité de cette épidémie va être bien, bien plus importante encore. Donc peu de patients très jeunes et surtout pas de patients jeunes sans comorbidité.
Vous avez lancé hier avec une cinquantaine d'autres réanimateurs un appel dans le journal Le Monde, un appel aux patients et à leurs familles pour vous aider à participer à la recherche clinique sur ce Covid-19. Pourquoi cet appel ? Vous manquez de volontaires ?
On manque pas de volontaires, mais vous avez vu que dans les jours qui viennent de passer, les politiques, les journalistes se sont invités dans le débat scientifique. Et ça complexifie énormément l'obtention de ce qu'on appelle le consentement éclairé pour la recherche clinique. Il y a depuis maintenant de nombreuses années des dispositions éthiques qui sont extrêmement importantes pour que l'on puisse obtenir des données scientifiques de qualité où les patients sont inclus dans des essais avec un consentement éclairé. Et le fait qu'il y ait eu énormément de battage médiatique sur un certain nombre de médicaments comme l'hydroxychloroquine fait qu'il y a une pression qui est mise sur les équipes pour que les patients bénéficient de ces traitements en dehors de ces essais cliniques qui sont absolument indispensables si on veut établir d'une part la preuve de l'efficacité et de l'innocuité de ces traitements et pour obtenir des preuves scientifiques qui, ça nous paraît un élément absolument indispensable.
Oui, pour des démonstrations... Oui, Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que d'éventuels volontaires font savoir à leur médecin qu'ils veulent bien participer à l'étude, mais à condition d'avoir de l'hydroxychloroquine.
Voilà, ou qui réclament le traitement sans même vouloir participer à l'étude, ce qui nous paraît totalement inacceptable. Il faut bien voir qu'en plus de ça, en réanimation, la majeure partie des patients qui se retrouvent notamment sous ventilation artificielle ne peuvent pas consentir eux-mêmes puisqu'ils sont inconscients. Mmh. Et le consentement est obtenu auprès des familles. Et évidemment, quand on écoute les médias aujourd'hui, et même quand on voit les dispositions qui ont été prises avec ce décret ministériel, il y a une pression qui est mise pour obtenir ces traitements en dehors des essais cliniques qui nous paraît totalement contre-productive et peu acceptable.
Oui, enfin, vous avez cité les médias et les politiques, mais à la base, c'est l'un de vos collègues, professeur à Marseille, au CHU de la Timone, qui a créé cette agitation. Tout de même, il faut le rappeler.
Qui reconnaît bien également que 24 patients ne suffisent pas et qu'ils font un essai clinique. Et cet essai clinique est en cours, donc attendons les résultats.
Oui, bien sûr, des démonstrations scientifiques rigoureuses. Vous avez créé il y a 2 ans, professeur Chiche, la fondation 101, mais ça se prononce 101. One, c'est quand on est debout et zéro quand on est couché, c'est ça?
C'est ça, One, vous êtes debout avec des projets pour demain, vous êtes en pleine forme, vous vivez votre vie de façon entière et puis d'une minute à l'autre, vous vous retrouvez ou un de vos proches se retrouve en réanimation, on ne sait pas si demain va exister. Et l'objectif de cette discipline qui est totalement méconnue, c'est de vous ramener en position One. En position debout avec une deuxième vie que vous allez pouvoir vivre également de façon entière. Et il ne vous échappera pas que ces 0 et ces 1, c'est aujourd'hui le langage du digital et nous essayons d'investir le champ de ces nouvelles technologies pour faire en sorte qu'on soigne mieux, qu'on applique ce qui est connu et qui doit être appliqué dans tous les services de réanimation, qu'on comprenne mieux et qu'on fasse de la recherche, notamment en profitant de toute la recherche qui peut être faite sur les données qui sont recueillies chez les patients de réanimation. Un patient de réanimation, ça génère à peu près 10 000 points de données par jour et par patient. Et quand on regarde ces données, on peut commencer à mieux comprendre en comprenant et en mesurant ce qu'on fait dans le soin clinique quotidien et en fusionnant le soin clinique et la recherche. Et l'autre objectif, c'est effectivement de mieux accompagner ces patients et leurs familles pour laquelle l'hospitalisation en réanimation, c'est un choc assez violent. On estime que le stress post-traumatique de quelqu'un qui vient de passer 3 semaines en réanimation, c'est à peu près 5 fois le stress post-traumatique des soldats de l'ONU qui reviennent de mission. On n'y consacre pas aujourd'hui, malheureusement, exactement l'énergie qu'on devrait y consacrer, alors que le poids sociétal de la réanimation aujourd'hui est absolument majeur.
Et vous le disiez tout à l'heure, la France est sous-équipée en réanimation et la discipline est négligée. Comment vous l'expliquez?
Alors, ça a été une discipline pendant très très souvent dans l'ombre, puisque pendant des années, nous nous sommes enfermés à double tour dans nos services, sans réellement communiquer. Et puis, nous sommes quelque part une discipline de passeurs. Vous arrivez en réanimation à cause d'un accident brutal, aigu, d'une maladie cardiaque, d'un cancer, d'une complication d'un cancer, d'un accident de la route. Et puis, lorsqu'on vous a sorti de cette situation extrêmement difficile, vous sortez pour retourner vers un autre service d'aval où le héros, c'est pas l'équipe de réanimation. Le héros, c'est le cancérologue qui vous a guéri du cancer. Donc, je pense que c'est une des explications. Même si nous ne représentons que 3 à 4% des lits, on représente autour de 35% des dépenses d'un hôpital. Et quand on met en regard de ces 35% des dépenses le poids de l'effort de recherche qui est consenti, on se rend compte de tout ce qui reste à faire, puisque on estime que à peu près 2 à 3% des crédits de recherche sont consacrés à des sujets qui touchent de près ou de loin la réanimation, alors que l'impact sociétal de la réanimation aujourd'hui est un impact majeur.
Merci beaucoup. Une adresse web pour votre fondation?
www.one-o-one.eu.
Merci beaucoup Jean-Daniel Chiche, merci de nous avoir accordé cet entretien. Professeur de réanimation à Cochin et président de la fondation One Zero One O One. Merci à vous.